Salut, moi c'est Adri.
Salut, moi c'est Eric.
Salut, moi c'est Caleb.
Et on va tous ensemble au lycée de la Grange.
Et on va faire plein de jeux.
Ah ouais, j'ai envie de jouer à la marelle.
Ok, cool, épisode 14, l'épisode tant attendu depuis au moins une semaine qu'on n'a pas sorti. Un épisode. Est-ce que vous avez eu le temps d'aider une personne, Eric, je crois que...
Bah oui, il n'y a même pas 5 minutes, j'ai aidé une vieille dame à 300 mètres de la rue. Merci de taper dans le micro au moment où je raconte mon histoire, mais ok. Ouais, voilà, j'ai fait ça. Et d'ailleurs, il y avait des potes qui jouaient au palais à côté et qui m'ont fait « Wow, Eric, on savait pas si t'étais un connard ou un mec bien, et maintenant, on ne sait toujours pas. » Voilà.
Moi, personnellement, j'ai aidé quelqu'un 2 minutes et c'était Eric qui était un peu trop bourré.
C'est vrai.
Non, mec. C'est le début de la soirée, je viens de arriver, donc non.
Mytho.
Ok, donc comme vous l'avez entendu avec nous, on a quel homme.
Yo.
Du coup, j'aurais pu dire ça.
Je voulais la jouer en mode rappeur, je sais pas, c'est sorti tout seul.
On a déjà eu quel homme à la Grange, mais.
C'est vrai, mais il était venu sous un autre pseudonyme.
Ouais, du coup, ça va être beaucoup moins drôle mon interview, mais bon.
C'est pas grave.
En vrai, faut dire la vérité aux auditeurs, hein, on est là pour être honnête. Je voulais venir sous un pseudonyme, mais je voulais pas qu'on dise forcément mon prénom, mais vu qu'Adrien avait prévu l'interview avec mon prénom, c'est pas grave, on va y aller. C'est bonne entente, c'est bon esprit. Ici, c'est la fête ici.
Charlie de Charlie Lulu.
Ah, ça serait trop cool. Non, c'est Ronan, donc on a Ronan S avec nous. Ronan, est-ce que tu peux lancer le jingle?
Allez, 3, 2, 1, jingle.
Et il est l'heure de l'interview sérieuse. Alors aujourd'hui avec nous dans l'émission, Ronan S. Ronan S, vous êtes écrivain et vous êtes en train de peaufiner votre premier roman. C'est de l'autoproduction et il n'y a pas de titre définitif pour le moment, si je m'abuse.
Je demande aux auditeurs à ma page Facebook d'essayer de trouver le titre pour moi. Et écrivain, je trouve qu'il y a vachement de prétention dans tout ça, donc pour l'instant je me dis que je suis en projet d'écriture.
Très bien, alors je vais vous poser la question qu'on pose souvent dans ce cas, la question qui fâche. Alors la sortie, c'est pour quand?
C'est pour le 21 décembre. Alors en vrai, c'est pas terminé. Je suis en grosse panique totale à l'intérieur de moi. Et ça se voit à l'extérieur, bio de Danone. Et donc ouais.
Pas de marque à l'intérieur.
Ah oui, c'est vrai.
Je connais pas d'autres yaourts.
Danette.
Non, c'est la même marque.
C'est la même marque.
Okay, Danonino.
Danonino.
On voit la puissance du marketing. Il n'y a que Danone dans notre tête pour les yaourts, c'est ouf.
D'accord. Non, les petits Suisses, c'est quoi?
Yoplait. Bien joué. Alors je vais résumer un peu. Attends, je reprends ma voix d'intervieweur. Alors je vais résumer un peu le début de votre roman pour les auditeurs malchanceux qui n'auraient pas pu accéder à la preview que vous m'avez envoyée dans le plus grand secret. On y suit donc quel homme, ce Breton, un personnage dont on apprendra bien vite qu'il s'agit en fait d'un pseudonyme et qui au début du roman se livre à une véritable bataille d'ego avec une psychologue qu'il consulte pour la première fois.
C'est normal que je borne ou pas?
Ronan, le personnage principal, transpire d'authenticité. Peut-on dire qu'il est en grande partie votre alter ego, votre part autobiographique à l'intérieur de l'œuvre?
Tout à fait, ouais, c'est vrai que justement c'est un livre où je veux transmettre exactement comment ça se passe, toutes mes pensées et tous mes doutes un peu sur la vie, les peurs qu'on subit un petit peu au quotidien. Et en fait, ouais, je veux retransmettre mes échecs aussi, et être complètement honnête avec ce que j'ai ressenti pour que peut-être des gens ils lisent ça et se disent « Ah, et en fait, ce mec-là, il est en train d'écrire un bouquin alors qu'en fait, c'est un gros naze. » Mais voilà, il croit dans son rêve d'enfant, et mon rêve d'enfant, c'était d'écrire un bouquin. Et j'ai envie de ne pas lâcher le morceau et j'ai envie d'aller au fond des choses. Et j'essaie de retranscrire en fait tous mes doutes derrière la poursuite de mon rêve.
C'est pas un peu la fin de ton innocence, c'est pas un peu la fin de ton adolescence, ce bouquin?
Bah non, je pense que j'ai vécu la fin de mon adolescence l'année dernière, quand j'étais en train de voyager. Et ça m'a mis un coup, et le temps que je retourne un peu la réalité, je me suis rendu compte qu'en fait l'adulte, c'est aussi quelque chose, un état d'esprit. Et être adulte, c'est juste se prendre trop au sérieux. Et pendant un petit bout de temps, je me suis pris beaucoup trop au sérieux. Et maintenant, je suis retombé un petit peu dans l'humour et je dis des saloperies, je dis n'importe quoi pour profiter un peu de l'instant, profiter de la vie. Et je pense que l'adolescence, j'y suis retourné en fait, parce que oui. C'est ça la vie.
Mais c'est ça ta moustache aussi. Hein.
Ça, c'est mon duvet. Ouais.
Très bien. Donc, l'intrigue s'articule principalement autour des mécaniques psychologiques du personnage de Kellum. Ce dernier déclare posséder des capacités de divination. Il est difficile de déterminer s'il est effectivement devin ou psychotique. Alors en ce sens, on entre dans la plus pure tradition du genre littéraire que l'on qualifie de fantastique. Renan S., quelles sont vos inspirations ?
Eh bien, en fait, c'est des vraies pensées que j'ai eues et qui sont venues, je pense, d'un côté d'une psychose, hein, de la paranoïa. Et je parle de la paranoïa dans le livre. Justement, la paranoïa, c'est quoi, en fait ? C'est croire que ses pensées ne sont plus ses propres pensées. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de manipuler tes pensées. Et oui, c'est exactement ça que je veux mettre sur le papier, en tout cas j'essaye. C'est qu'en fait, en étant moi-même paranoïaque, j'imagine ce que l'autre pense. En tout cas, j'essaye. Et à travers cette imagination-là, ça renvoie beaucoup d'informations. Tu vois, là, je vous regarde en train de m'écouter et vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte ?
Non, moi je me dis rien du tout, Renan. Je suis super chépère.
Renan S., votre livre aborde des sujets parfois plus sombres avec des connotations beaucoup moins enjouées que les thématiques classiques du genre fantastique. Votre avis sur le terrorisme, Renan S. ?
Alors là, c'est une question qui risque... C'est génial, j'adore cette question parce que je mets peut-être beaucoup de gens à dos, mais je suis quelqu'un des... Je me considère que
je suis pour...
Non mais justement...
On a du public et le public se marre autant que nous.
Mais j'espère que les gens qui écoutent le podcast rigolent aussi avec nous, hein, c'est un peu le but. Et ouais, je suis quelqu'un d'extrêmement... Enfin, une ouverture d'esprit un petit peu. J'essaye de d'ouvrir à chaque seconde mon esprit et d'essayer d'imaginer qu'est-ce que je ferais, en fait, si mon âme serait transportée dans un terroriste. Et j'essaierais de comprendre pourquoi il ferait ça, tu vois. Et j'ai essayé... C'est une vraie question. D'ailleurs, c'est marrant que tu poses cette question.
C'est une empathie... mais c'est une empathie qui va pour tout le monde ou juste dans les cas extrêmes ?
J'essaye pour tout le monde.
Ouais. Ah mais c'est pour ça que tu me comprends quoi.
Bah je sais pas, ouais, j'essaye en tout cas. Mais oui, je crois beaucoup à l'empathie. L'empathie est un des sujets principaux du livre.
Ça m'emmerde une force.
Et j'essaye d'expliquer un petit peu l'empathie ou la faire comprendre pour ceux qui ne sont pas capables de, ou se pensent en tout cas incapables. Mais je te visais pas, tu vois, ça c'est la paranoïa, tu vois, tu penses que je m'adresse à toi alors qu'en fait pas du tout.
Parfait, Renan. Une des thématiques soulevées dans ce livre est la poursuite de ses rêves d'enfant. Renan S., quel prochain rêve comptez-vous poursuivre après ce livre ?
Attends, j'ai pas fini du coup l'histoire sur le terrorisme.
Pardon, Renan S., on revient sur l'histoire du terrorisme.
Vas-y, je fais rapidement. Et alors...
Tu l'as bossé combien de fois la voix ?
Elle est géniale, franchement c'est un rêve.
J'ai passé beaucoup de temps à imaginer en face de moi Renan S., je suis très content
parce
d'avoir.
Parce que personnellement, je suis vraiment très très serré dans mon jean là.
Je suis très content d'avoir.
Tu aimes les
pour la première fois. La deuxième fois Renan S. dans l'émission. Donc Renan S., votre avis sur le terrorisme ?
Bah écoutez, merci, merci Adrien de me recevoir. Déjà, je vous ai pas remercié, je tenais à vous le dire. Non, bah oui, le terrorisme.
Elle picolait quand vous écoutez ça, parce que sinon c'est pas vivable.
Mais non, mais si, il faut. Ou alors, je sais pas, mettez-vous un petit peu d'héroïne dans le corps. Mais...
Alors on rappelle que la grange ne cautionne pas du tout l'héroïne et la cocaïne par voie intraveineuse ou par voie nasale.
Ah oui, non, on se drogue pas, on est contre. Donc oui, non mais ouais. Juste pour finir rapidement sur le terrorisme, parce que c'est quand même un gros sujet, et puis enfin, faut pas... Moi je pense que c'est des gens qui sont un petit peu complètement perdus et qui essayent de comprendre un peu le monde et qui voient beaucoup de malheur, qui voient les informations, qui voient que aussi les pays développés, bah, mine de rien, dans le sens inverse, on balance des bombes sur des innocents et je pense qu'eux ils veulent aussi se plaindre de tout ça et ils sont manipulés bien sûr par des personnes qui leur disent bah tu vois tu es né dans un univers capitalistique avec trop d'informations, tu es dans le mal, tu peux sortir de ton mal, tu peux toi-même bah voilà aller faire des saloperies auprès des gens. Et en fait non, c'est des gens qui sont manipulés et qui sont perdus et je dis pas que je les comprends parce que c'est faire le mal à autrui c'est mal merde.
Ouais, t'as même pas à répondre quand je te mets une baffe quoi.
Ouais. Si, moi je pleure à l'intérieur.
Il répond. Il est pas du tout dans son dialogue. Hein. Il y a le dialogue de Renan S. Et puis.
Pourquoi tant de violence ?
C'était la prochaine question, Renan S. Pourquoi tant de violence ?
Ah la vache, vous me mettez vraiment au dépourvu là. Pourquoi tant de violence ? Mais je pense que en fait.
Pourquoi c'était ton qui pointe, Renan S.
Il y a presque une agression physique au début du livre qui est. Sans vouloir spoiler le. L'élément clé, une presque agression physique. Pourquoi tant de violence, Renan S?
Je pense que la violence, c'est le miroir de son âme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'exprime avec des gestes physiques, c'est au fond une sorte d'appel à l'aide. Tu vois, en gros, si j'ai subi des choses dans mon enfance ou même récemment, tu vois, des choses qui m'ont énervé, eh ben, si t'as le droit de créer cette violence auprès de moi, pourquoi moi j'aurais pas le droit de créer cette violence auprès de toi? Et du coup, des fois, on la ressort de façon physique. Et ouais, je pense qu'en fait,
désolé,
c'est ce qu'on appelle le karma. En fait, je pense que tout acte qu'on crée aura une incidence opposée dans le temps.
Le cercle vicieux de la violence, donc. Très bien, je rappelle le titre. C'est pas de titre définitif pour l'instant, et c'est aux éditions, pardon, Autoproduction.
Carrément, tout est
culture
fait.
Culture maintenant, avec la rubrique mythologique présentée ce jour par notre chroniqueur de toujours, Éric de Lagrange.
Bonjour à tous.
Attends, j'ai pas mis le jingle.
Bon, Éric, tu lâches ce ballon d'hélium, s'il te plaît.
Rubrique culture.
Rubrique mythologique, donc on va pas y couper parce que c'est la rubrique préférée de ma maman. Et aujourd'hui, c'est Eric qui va la présenter.
Voilà, donc la rubrique préférée de ma maman, donc on ne va pas y couper. Mais aujourd'hui, on innove et c'est Eric qui va présenter la rubrique mythologique. Adrien m'a écrit tout mon texte, donc si vous trouvez ça nul, bah vous savez à qui vous plaindre. Voilà. Aujourd'hui, dans la rubrique mythologique, on revient sur le... Minotaure.
Génial,
donc bref, rappel de l'épisode 11. Dans l'épisode précédent, Pasiphae, la femme de Minos, couche avec un taureau magique envoyé par Poséidon et en faisant construire par son copain Dédale une vache en bois creuse. Tout ceci est extrêmement normal. Elle accouche d'un monstre anthropophage, mi-homme mi-taureau, 100% chelou, que Dédale enferme dans un labyrinthe construit par ses soins. Le petit en question s'appelle Minotaure, ce qui veut dire le taureau de Minos. On apprend des trucs, c'est important, culture, biture et nature, tel est notre credo. Et toute l'histoire se passe en Crète. Ça va? Vous suivez?
J'ai ouais, vraiment écrit bien. Ça va, vous suivez. Je vois que tu sais bien lire, ça fait plaisir.
Minos donc, le roi de la Crète. Culpabilisant d'avoir enfermé le fiston dans un labyrinthe. Ah là là, j'ai mis mon gamin en prison. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour me rattraper? Bon sang, mais c'est bien sûr.
Tu fais pas les voix.
Bon sang, mais c'est bien sûr.
Là, j'y suis, là.
Tous les 9 ans, ou tous les ans, selon les auteurs, je vais faire livrer depuis Athènes 7 garçons et 7 filles directement dans le labyrinthe pour que bébé Minotaur puisse becter un peu. Je les ai pas contactés, mais je pense que tous les historiens s'accordent pour dire que Minos a clairement inventé la livraison de bouffe à domicile. Mais genre, bien avant Domino's Pizza.
N'importe quoi.
De son côté, le prince d'Athènes, qui s'appelle Thésée, se rend compte que c'est définitivement pas cool de manger des mammifères. Et de surcroît, des mammifères athéniens, et décide d'aller buter le Minotaure. Je vous la fais courte, mais en gros, il s'arrange avec Ariane, la propre fille de Minos, donc la belle-sœur du Minotaure, pour trouver une solution afin de s'échapper du labyrinthe. Elle lui file un fil, merci pour cette vanne, et il le déroule tout au long du labyrinthe. Comme ça, à la fin, il ne lui reste plus qu'à remonter le long du fil pour sortir. En plus de ça, il déroule pas un glaire, mais un glaive Minos, et va désinguer le Minotaure. Et le Minotaure, ici. Voilà. Waouh, c'est pas du tout la même histoire. Attendez, j'ai raté une page.
C'est vrai que j'ai filé 3 pages, donc c'était pas facile.
Alors, pour info, pour sortir de n'importe quel labyrinthe, il vous suffit de mettre vos mains sur le mur à votre droite ou votre gauche. Vous choisissez selon vos préférences politiques. Donc, pour moi, ce sera à gauche, malheureusement. Puis de suivre le mur sans jamais le lâcher de votre main. Voilà, c'est 100% de réussite. Vous pouvez essayer quand vous voulez. Merci Lagrange, le podcast le plus utile pour les gens perdus dans les labyrinthes. Bla bla bla. Voilà.
Que d'énergie. J'ai une énergie. Tu transmets quelque chose.
J'aimerais quand même souligner un truc dans cette histoire. On n'en parle pas souvent, mais le Minotaure. Putain, c'est pas facile à dire. Le Minotaure est quand même une sacrée victime dans cette histoire. Il est moche. Alors on l'enferme, on lui envoie de la bouffe vraiment rarement, alors qu'il n'a pas du tout choisi son régime alimentaire, il aurait pu être un mammalivore comme nous. Et il y a un mec qui vient le buter chez lui et que tout le monde acclame comme un héros après. Bref, vu que dans toutes les histoires inspirées du Minotaure, il y a le bad guy qui voulait lui rendre hommage aujourd'hui. Big up mon gars, comme on disait dans les années 90.
Ah, j'ai un sacré talent de...
Sinon, cette merveilleuse histoire continue, vu que Minos apprend que c'est Dédale qui a construit la vache creuse dans laquelle sa femme s'est fait saillir par le taureau de Poséidon. Il n'y a pas un mot qui est moins dégueulasse que l'autre dans cette phrase. Du coup, il est plutôt vénère. ce que je peux comprendre, et décide de faire enfermer Dédale et son fils dans un labyrinthe construit par...
Dédale.
Dédale lui-même. C'est une punition plutôt sympa, parce que pour vraiment songer, il aurait pu l'enfermer dans la vache en bois.
Ouais, c'est clair.
Et le faire tourner par tous les taureaux du coin. C'est un truc qu'on fait souvent dans la campagne, n'est-ce pas, Ronan S?
Oui, je peux... Mon troufle, on peut en parler. Excusez-moi, c'est...
Bref, le prénom du fils de Dédale va vous dire quelque chose, je pense, puisqu'il s'agit...
D'Icar.
Icar. Icar, bien, n'ayant pas pu avoir de fil pour sortir du labyrinthe, Dédale a une idée. Une idée discutable, mais une idée. Il plume 2-3 poulets et se colle leurs plumes avec de la cire sous les bras et sous les bras du fiston. On appelle ça le féminisme des années 70. Ça, c'est une vanne qu'Adrien n'a pas écrite.
Non, celle-là, j'ai pas.
Et là, suis le script, Eric, suis le script.
Et là, bah, ça me fait un peu penser au cartoon, genre Bip Bip et Coyote, mais juste en battant des bras, les deux larrons s'envolent et s'échappent du labyrinthe, avec des plumes au bras.
Ouais.
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes quand Papou Dédale dit « Icaroune, ne va pas trop près du soleil, ça chauffe et tu n'as pas mis ta crème solaire !» Et du coup, Icar lui répond « LOL !» Il va trop près du soleil, la cire fond et paf, ça fait des chocs à pic. Comme le veut l'expression, Icar tombe à l'eau. Que reste-t-il? Ben, juste le cadavre d'Icar, qui est mort comme un bon Gaulmont et qui méritait un beau Darwin Award. Bon, les Darwin Awards, c'est les morts les plus cons. On parlera une autre fois des Darwin Awards, voilà. Car pour clore cette rubrique, je voulais juste parler de deux notions importantes dans la mythologie grecque et aussi dans la vraie vie des Grecs de l'époque. Et saupoudrer de culture, ce gâteau de culture, c'est comme mettre du beurre sur le Queen Amman. Il n'y a rien de plus délicieux. Numéro 1, l'hybris. L'hybris, ça peut se traduire par démesure ou orgueil. C'est quand un humain, par ses actions, tente de rivaliser avec les dieux. Ce que je fais tous les jours. C'est donc bien ce qui a causé la mort d'Icar.
Exactement.
Hybris, retenez-le. C'est le. On saupoudre un peu de culture sur la biture, là. C'est intéressant parce que dans la religion grecque, il n'y a pas de notion de péché qui est venue avec le christianisme. C'est vrai. Saloperie de judéo-christianisme. Du coup, la faute la plus grave, c'est l'hybris. C'est vouloir se prendre pour un dieu. C'est l'hybris qui te pousse à voler, violer ou tuer. Ça tombe bien. Et du coup, qui est considéré comme un crime par les Grecs anciens.
Voilà.
Numéro 2, l'inverse de l'hybris. Tu sais ce que c'est, hein?
La némésis.
La némésis, allez, messieurs dames.
Pourquoi j'ai dit que c'était l'inverse? C'est pas du tout l'inverse.
Bah, il y a marqué l'inverse.
C'est la conséquence, ouais, je me suis craqué.
C'est la conséquence de l'hybris?
Ouais. Ouais, c'est la juste vengeance.
D'accord. La némésis, c'est juste. C'est la juste punition.
La juste punition.
Envoyée par les dieux, bien sûr, et envoyée afin de punir l'hybris.
Et qui a même été personnifiée en une... Je sais pas si j'en parle.
Deux notions ont été personnifiées sous la forme de déesse et perso. Je trouve que le mot némésis claque sa mère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excusez-moi de faire des rubriques mythologiques de plus en plus longues. C'est clairement mon hybris qui fait des siennes. C'était signé Eric. Oui. Ça n'a pas du tout été écrit par Adri. Applaudissez-moi de là où vous êtes. J'ai pas besoin de faire de chronique maintenant, pas besoin mon gars.
Et
pourquoi?
Ben
parce que ça, tout ça est écrit par Adri.
Ça ressemble beaucoup à ta à université.
Ah
bon, en gros, on te mâchait le travail et tu recopiais tout.
Ah c'était, il y a toujours un mec dans les groupes de TD qui branle rien.
tu sais
t'es pas obligé de lever la main, on n'est pas à l'école.
Je suis encore à l'université un petit peu. Et dans mes groupes, il y a un de mes profs qui m'a appelé la vigie. Il dit, je suis le mec qui fout rien mais qui surveille quand même que tout se passe.
Ah, j'avoue, c'est tellement toi.
Ah, je sais pas s'il surveillait trop, mais écoute, ok.
Bah, il fait sa loi, quoi.
C'est ouais, pas moi.
Je pense qu'il est temps de passer à la rubrique voyage-voyage.
Oh ah. Voyage-voyage.
J'adore.
Non, on n'a pas le droit, on n'a pas les droits.
On n'a pas les droits.
Au prochain rond-point, vous êtes perdu. Rubrique voyage.
Vous êtes trop fatigué, monsieur.
Donc
aujourd'hui, dans la rubrique voyage, on va parler d'une petite ville en plein milieu d'un pays. What? Ouais, on va parler de Black Rock City, une petite ville en plein cœur du désert du Nevada.
Je peux la lire moi aussi celle-là?
Je sais pas, je vais me lancer tout seul pour celle-là. Et qu'a-t-elle de particulier cette petite ville? Eh bien, elle n'existe qu'une semaine par an, tous les ans depuis 1990. Pourquoi?
Parce qu'elle abrite... C'est l'année de la naissance de Ronan S.
En plus.
Ah oui, il n'y a pas de hasard. Hein.
En fait, bah, pour le coup, là, c'est le hasard.
Quoi ?
En fait, elle abrite le festival du Burning Man qui
What
a été... What ? Qui a été créé, lui, en 1986. C'est très, très vieux puisque c'est l'année de décès de Coluche. Donc,
il est mort, Coluche ?
En 1986. Donc, c'est impossible... C'est impossible d'expliquer ce qu'est le Burning Man, mais je vous conseille quand même l'épisode de J'irai dormir chez vous d'Antoine de Maximi,
qui s'appelle, drogue.
Qui s'appelle J'irai dormir chez l'homme qui brûle et qui prend par inadvertance, en tout cas c'est ce qu'il dit.
Inadvertance.
Par inadvertance de la drogue. Pour essayer d'expliquer l'inexplicable, pardon, c'est un festival d'art qui dure une semaine en plein désert et où chacun des 70 000 participants ou burners est à la fois artiste et bénévole de l'œuvre globale. En fin de semaine, on brûle un gigantesque homme de bois, un peu plus de 2 mètres. En 86 et 35 mètres en 2013, donc c'est assez grand. C'est comme une icône païenne à la vie.
Mais cette année, il faisait combien de mètres ? Il était aussi grand ?
Non, cette année, ils n'ont pas brûlé genre un être humain aussi.
Accidentellement, oui. Alors ça, c'est assez rare. Pour essayer de donner un petit goût de cette folie douce, je vais vous résumer les 10 commandements. En gros, tu reçois 10 lignes directrices que tous les participants reçoivent et qui régissent l'ensemble du festival. Donc, numéro 1, inclusion radicale. Tout le monde est accepté, quelle que soit sa foi, son pays, son orientation.
Ah, c'est chaud, même les témoins de Jéhovah.
Tout le monde est accepté. Ouais, et en pratique, quand tu es là-bas, tu vois surtout qu'il y a des gens de tous les pays. Quoi. C'est assez cool. Numéro 2, pratique du don. Rien n'est payant au Burning Man. Tous les bars, discothèques, musées, attractions, tout est gratuit. Les tours en avion, les sauts en deltaplane, les massages, la nourriture, les concerts.
Attends, il y a vraiment des tours en avion ?
Ouais.
Putain,
ouais.
C'est génial.
Et pourquoi tout est gratuit ? Parce que tout le monde doit offrir des trucs, c'est l'essence même du festival. Alors nous, on avait confectionné des petits bijoux et on avait prévu un stand de crêpes qui n'a pas eu grand succès en fait parce qu'on a appris au cours de la semaine qu'il fallait une licence pour donner de la nourriture. Donc il y a des gens qui se font chier à obtenir une licence pour pouvoir offrir de la nourriture gratuite aux gens en plein désert, c'est vraiment beau.
Quel intérêt de faire ça ?
Vous avez fait quoi de toute la farine ?
Hein ? Ben, on a mangé beaucoup de crêpes de nous-mêmes. Il n'a pas beaucoup demandé de nourriture dans le désert.
Ouais, en gros, c'est par rapport à l'hygiène, c'est ça ?
Exactement. Principe numéro 3, décommercialisation. Encore une fois, rien n'est payant au Burning Man. Et le festival refuse tout partenariat avec quelque entreprise qu'elle soit. C'est quand même à relativiser parce que quand même, les billets sont hors de prix. En gros, c'est 1 200 $ parce que c'est dur de les avoir du premier coup. Donc souvent, tu achètes des secondes mains et c'est 1 200 $. Donc voilà, c'est un peu cher. En plus, sur place, tu as quand même deux trois trucs que tu peux acheter, de la glace et l'essence. Mais à l'origine, un des gros trucs de ça, c'est décommercialisation. Et voilà. Règle numéro 4, autosuffisance radicale. Donc tout le monde, tous les participants doivent avoir de quoi survivre tout au long du festival. En tout cas, le festival ne te fournit aucune assistance matérielle, à part des toilettes. Et dans cet esprit d'autosuffisance, tous les bars, qui encore une fois vous servent à boire sans rien vous demander d'autre qu'une pièce d'identité, ne vous serviront que si vous avez un gobelet sur vous.
Attends, il te faut une pièce d'identité ?
Exactement, j'y viendrai plus tard.
Oh, la tristesse, quoi.
Expression de soi radicale. Chacun peut s'exprimer comme il le souhaite et le port de vêtements est optionnel. Donc il y a beaucoup de gens tout nus.
Ça, c'est ma cam.
Ça, voilà. C'est génial. Est-ce que tu étais tout nu toi-même pour le coup ?
Non, tout le monde, on avait des déguisements, tout le monde est déguisé. Il y a un petit peu des airs steampunk de fin du monde. Et un vrai régal pour les yeux, vous pouvez voir les photos sur l'internet.
Il y a des filles toutes nues.
Il y a,
c'est ça,
oui,
que
il y a des garçons. Il y a un régal pour les yeux. Règle numéro 6, effort en commun. Les participants sont encouragés à travailler ensemble. Et de fait, on trouve en plein milieu du désert des édifices de plus de 30 mètres de haut montés à la main par des bénévoles. En gros, il y a plein de burners qui se réunissent des mois avant pour travailler sur des projets énormes. Et plus tu te rapproches du centre du festival, plus là où il y a le Burning Man, plus tu trouves des trucs vraiment démesurés. Vraiment, il y a des trucs incroyables. Il y avait une pyramide géante cette année, je pense qu'elle est là tous les ans. Il y a des discothèques roulantes, enfin, c'est incroyable.
J'ai fait ça en Bretagne. J'ai fait une soirée dans un champ. Et un mec, et ils avaient construit, le thème c'était Égypte. Ils avaient construit une pyramide au milieu du champ. Et à minuit et demi, ils ont commencé à casser la pyramide et il y avait une porte. À l'intérieur de la pyramide, il y avait un dance floor avec de quoi. Ouais. Ouais, c'était cool. Un peu ouf.
Et ça, c'est vraiment dans l'esprit du burn. Tu vois.
Et ce qui a un peu niqué l'esprit du burn, c'est qu'il y a un rouquin qui s'est coincé entre deux palettes en essayant de rentrer dans la pyramide en pensant qu'il y avait un moyen de rentrer de l'autre côté et qui s'est coincé entre deux palettes et ils ont dû casser les palettes pour ressortir le rouquin qui était à quatre pattes entre deux palettes.
Ouais. Ça, c'est moins l'esprit Burning Man.
Ouais.
Ouais, mais c'est assez drôle quand même.
Et règle numéro 7, responsabilité civique. Malgré ce que j'ai dit avant, le Burning Man est loin d'être une zone de non-droit où tous les foufous de la terre viendraient sniffer de la colle. En fait, les
activités. Ça a été au début ?
Au début, ouais, ça a été, mais maintenant, toutes les activités, enfin, aucune activité ne doit enfreindre les lois fédérales. Et apparemment, il y a des flics en civil qui parcourent le festival pour empêcher les gros débordements.
Ouais, t'as surtout flippé, t'as rien fait, du coup.
En pratique, ça fait que les places qui offrent de la bouffe nécessitent des licences, que tous les bars sont obligés de demander la pièce d'identité de tout le monde pour pas servir les moins de 21. Et voilà. Bon, même si on a vu pas mal de gens qui avaient l'air drogués, tu vois pas beaucoup de gens prendre de la drogue devant toi. Je pense que les gens font quand même globalement.
Ouais, ça se voyait quand même que les gens étaient un peu différents,
ouais,
ou pas.
Ouais, ça me fait penser à mon pote Pierre hier qui me dit ouais, Eric, je viens de prendre un para alors qu'on était au bar. Et je fais, mais pourquoi?
Pourquoi cette histoire? Attends, bonsoir. Règle numéro 8, pas de trace. Il ne faut laisser aucune trace.
Pas de trace, mon gars, pas de drogue, pas de trace.
aucune trace, aucun déchet. Personne ne jette quoi que ce soit par terre et il n'y a aucune poubelle dans le festival. Donc, même faire des bulles de savon, c'est plutôt mal vu que ça laisse tes résidus savonneux.
Attends, t'es venu avec Vince, c'est genre, il n'y a aucune poubelle dans le festival.
Non, on a été vraiment, vraiment rigolo. Du coup, il y a un petit business d'organiser à la sortie du festival où il y a des gens extérieurs qui te font payer 5$ par sac de déchets pour t'en débarrasser. Voilà.
T'as payé combien?
Nous, on s'est arrangé pour laisser un sac dans chaque camping au fur et à mesure. Parce que les campings, quand ils savent que tu viens du Burning, ils disent non, vous pouvez pas laisser vos poubelles. Donc,
Parce que tu peux pas rester dormir sur le Burning Man.
Si, non, je veux dire après la semaine. Ah, si, si, c'est, tu t'en pars pas.
Hein. Ah oui, d'accord, ok.
Tu restes dormir sur place. Numéro 9, participation. Tout le monde est invité à participer activement au festival et c'est vraiment une notion importante. Comme j'ai déjà dit, tous les participants sont à la fois bénévoles et artistes. Voilà, c'est ce qui permet de.
C'est vachement dans l'échange, quoi.
Voilà.
Mais vous, tout ça n'a pas trop marché.
Non, nous, on a pas pu. On a réussi à donner à quelques personnes des crêpes, donc voilà. De rien. Et règle numéro 10.
Mais même ce que vous aviez fait, les petits bijoux et tout.
Ça, on a réussi à en donner, mais pas tant que ça en fait. Vraiment, j'ai dû donner 10% des bijoux que j'avais confectionnés parce que, en fait, vraiment, c'est pas du troc, c'est vraiment du don. Tout le monde te donne des trucs et c'est dur.
De donner?
Ouais.
C'est dur de donner.
Ouais, parce que les gens, ils sont organisés en grands bars et les bars, ils servent les gens à la chaîne et t'as même pas le temps de parler avec eux. Ben, vraiment,
c'est... Ah ouais, c'est chaud.
C'est quoi la rencontre qui t'a le plus marqué durant cette expérience?
Fais-le avec une encore plus.
Ouais, fais-le avec. Fais-le
une. C'est quoi la rencontre qui t'a le plus marqué durant cette expérience?
Eh ben.
Ah, ça, c'est une boîte cancéreuse. Ouais, c'est
sexy. J'ai envie de tousser en même
temps. On s'est fait une pote. On était avec. J'étais avec mes amis Thomas, Gaël et Vincent. Et Thomas, en dansant, rencontre une fille. Et ils se regardent, petit échange coquin. Et ils disent: tant on se connaît. Et en fait, elle était française. Elle fait: mais ouais, on était ensemble dans un festival il y a 2 semaines.
Mais oh, non,
si. Donc, Camille, si tu nous entends. Et c'est en fait, elle était à l'autre bout du festival, donc 1 heure de vélo. Et tous les jours, on a essayé de la voir. Et
une
en fait, il y a
vélo.
Tellement d'attractions partout qu'à chaque fois, on arrivait à côté de chez elle trop bourré. Et vraiment, c'était une.
Trop abusé d'être trop bourré tout le temps.
Ouais, attends, ouais, mais... 1 heure de vélo, ça doit vraiment être grand.
Mais non, mais tu peux le faire. Enfin, tu pourrais le faire d'un coup, mais il y a tellement d'attractions.
Ouais, t'as envie de voir.
De tourniquets, de tout. Enfin, t'as trop de trucs.
Ça donne vraiment envie en tout cas.
Le mec est niqué au tourniquet.
Ok. Et règle numéro 10, culture du moment présent. Ce commandement
énorme,
là,
génial,
j'ai pas compris. Moi j'ai pas compris.
J'ai filé ma bière à Ronan et du coup ça fait chier. Maintenant je suis obligé de couper tes phrases. Vas-y.
Ça roule. Donc je pense que c'est un truc sur la spiritualité pardon, et le rapport au temps. Mais en gros, j'ai kiffé chaque instant là-bas. Je crois que c'est pas mal. Je crois que pas mal de monde était dans le même état d'esprit.
Y a pas de violence, je pense, dans ce genre de festival.
Non, alors là, vraiment tout le monde te fait des câlins. Enfin, vraiment, il y a un esprit. C'est dur.
Des gens de nuit, on fait des câlins.
Ouais, vraiment, tout le monde te fait des gros. Enfin, c'est. C'est hyper, moi j'aimerais vraiment y retourner, mais c'est impossible à décrire, il faut vraiment le vivre.
Il paraît qu'ils vont en créer en France un Burning Man.
C'est fait, mais je sais pas ce que ça va donner, ça sera dans la Creuse.
Dans le sud.
Et voilà. Eric, t'as retenu les 10 commandements, tu peux nous
dire. Oui, bien sûr.
Il louche déjà, c'est pas mon signe.
Moi je retiens principalement l'instant présent, parce que je pense que c'est le commandement qui rejoint un peu tous les autres. Parce que l'instant présent, c'est quoi? C'est aussi vivre dans la durabilité. Et quand tu dis, tu parles des.
C'est pas des vrais mots que tu utilises, mais vas-y, continue.
Durabilité, ça n'existait pas?
Si.
Mais ouais, donc tu parles d'écologie, de justement pas laisser de traces. Et voilà, tu profites de l'instant, tu profites des gens autour de toi, tu es dans le don, tu es dans l'échange, dans la rencontre. Et moi, je retire principalement le 10e parce que
Ronan,
je trouve ça magnifique.
Je pense que ça te ferait trop kiffer ce festival.
Ouais, j'espère vraiment y aller l'année prochaine.
69 999 personnes comme toi partout, toutes nues, tu serais.
Bah, je pense que ouais, il y a moyen que je me mette tout nu pour voir un peu le truc.
Les gens sont tous.
Pas tout le monde, je pense.
Non, je dirais que c'est loin d'être la majorité, mais il y a quand même pas mal de gens tout nus. Et de tout âge, il y a des enfants, il y a des, j'irais jusqu'à 70 ans, il y a
c'est des... abusé par contre les enfants tout nus là.
J'ai pas vu beaucoup d'enfants tout nus.
Ah ouais, c'est vrai que c'est plus particulier ouais pour le coup.
Non non, j'ai pas vu d'enfants tout nus, mais ça va vraiment, il y a des enfants jusqu'aux gens de 70 ans.
Et aussi je sais pas si on vous souvenez de l'épisode de Malcolm où on voit un petit peu l'esprit partout hein, pour le dire. Est-ce que tu as vu ce genre de
Alors t'as... très très peu, parce qu'en fait il y a vraiment des lieux, vu qu'il y a des enfants partout, en fait c'est assez contrôlé hein. Donc il y a vraiment des lieux consacrés pour, où nous on n'est pas allé parce que en fait apparemment faut, alors je sais pas si c'est vrai, mais faut, c'est comme de l'échangisme, tu peux pas y aller tout seul et niquer. Donc, ouais,
quand tu dis c'est contrôlé, il y a des.
Ah bah, en vrai, en fait, on n'est pas allé. Tu sais, t'as un petit manuel où t'as tous les trucs et les, ouais. les trucs spécialement
ouais,
réservés.
De Maxime, il va tout seul à un moment.
Et bah,
ils lui interdisent de filmer, mais il est quand même dedans.
D'accord. Et ben, en fait, j'ai regardé que le début. Je me suis dit, je voulais pas me spoiler. C'est comme regarder la bande-annonce d'un film qui va être génial. Moi, j'essaye de
non,
pas
mais
le faire.
T'as raison, t'as raison.
Et donc, mais maintenant, je vais le regarder. Je vais voir. En tout cas, on n'a pas essayé. On a juste vu une fois des gens niquer sur une structure. De 15 mètres de hauteur, une sorte de grue, je sais même pas ce que c'était l'installation.
C'est ça la liberté.
Il faisait noir et d'un coup t'entends des gens qui font ouais et il y a quelqu'un qui s'est arrangé pour braquer un projecteur ou je sais pas, mais ils étaient éclairés, on voyait des gens donc niqués à 3 hein, en hauteur sur la... Ouais. Et voilà.
C'est loin 3.
Je sais pas, ça dépend comment ils s'organisaient, mais.
Donc voilà, bah écoutez,
ça donne vraiment envie d'y aller en tout cas, et j'espère y aller l'année prochaine. Mais pour tiens, toi qui as acheté les billets, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as des conseils pour faciliter le.
Non, mon conseil c'est d'économiser 1 200 $ parce que avoir les premières places beaucoup moins chères, je crois que c'est. Je sais même pas combien c'est, je crois que c'est 800, 500. Ouais, c'est quasiment impossible.
C'était 500 balles.
Ouais, c'est vraiment, vraiment difficile.
Ouais, en gros, en fait, on était 6 dessus et il y en a 3 qui ont
eu
des places.
Ouais, non, il n'y en a que un qui a eu, que des places. Et tu peux prendre que 2 places une fois que tu es.
Il n'y a que Galou qui a eu des places.
Tout à fait. Donc, voilà, mon petit conseil, c'est vraiment d'économiser 1 200 $, donc à peu près 1 000 €, je pense.
Pour une semaine, hein, ça.
Ouais. Okay. Pour une semaine, attention, c'est très cher parce qu'il faut de quoi survivre la semaine. Nous, on a pris un camping-car parce que d'un point de vue organisationnel, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est juste l'entrée dans le festival.
T'es dans le désert, quoi.
Ouais, t'es dans le désert.
Mais c'est fou de partir de rien d'un désert et de créer une ville en une semaine, et une semaine après, il n'y a plus rien. Le concept est magnifique.
Non, c'est dingue. Mais il n'y avait pas les mecs de la Silicon Valley qui avaient commencé à créer leur truc un peu avec l'eau, l'électricité, et qui se sont fait genre pourrir.
Ouais, je sais pas, j'ai entendu ça aussi, mais j'ai rien vu.
Et genre, on leur a mis de la mousse dans de la mousse qui se solidifie dans les prises électriques, dans les arrivées d'eau, pour vraiment les niquer, quoi.
Ouais. Je sais pas du tout, nous on avait ni arrivées d'eau ni prises électriques.
Bah justement, ouais. Et les mecs de la Silicon Valley avaient créé leur truc où ils étaient tous en blanc, ils se reconnaissaient entre eux, et ils avaient électricité, eau. Et il y a des mecs qui sont venus leur pourrir leur truc.
Bah, je trouve ça bizarre parce que en fait vraiment tout le monde fait ce qu'il veut, il y a vraiment pas de violence, donc je trouve ça bizarre.
Ouais,
que
mais
ça
arrive en hélico.
Ouais. Bah, y a un mec qui offre des tours d'avion, c'est ça son cadeau aux gens, c'est des tours d'avion. Il y en a. On voyait régulièrement, il y avait un gars qui avait un dirigeable, je sais pas comment il s'était démerdé, il y en a qui faisait du deltaplane, enfin tout. Il n'y a aucune limite, c'est l'imagination la seule limite. Une des attractions, c'était un Boeing posé
et
dans
l'imagination n'a pas de limite.
Ouais, exactement. Il y avait des gens qui avaient ramené un Boeing un peu désossé et tout, et tu visites le Boeing et ils te font tous des câlins. Enfin, c'est vraiment, c'est ouf, c'est incroyable.
Et question vachement importante, pas de douche pendant une semaine?
Alors, il y a les douches collectives.
oui, c'est vraiment free, c'est génial.
Ouais, alors personne n'a osé y aller dans le groupe. Même s'il y en a qui avaient dit qu'ils le feraient, hein, Thomas. Et donc, nous, on avait la chance d'avoir un camping-car. Malheureusement, on n'avait pas assez de réserve d'eau, donc j'ai pris une douche dans la semaine. Mais voilà.
Après, c'est pas très
à choisir entre être propre et être heureux.
C'est
ça. Voilà.
Bah, on a choisi être propre. On a choisi depuis très très longtemps.
Ah oui, non, moi les douches, je suis absolument contre. Je demandais, c'était plus pour vous, auditeurs.
Voilà, ben, je pense qu'on va conclure là-dessus. Une émission un peu plus courte parce que les yeux d'Eric commencent doucement à tomber.
Ouais, mais comment on va faire pour la soirée?
Il est seulement 10h du matin. Hein.
Pour la soirée, bah écoute, on va te faire un bon café puis,
voilà,
et puis on roule.
Non, mais ça se la raconte, ça se la raconte.
Ah, on n'a pas fait la mission.
C'est vrai, la mission.
Putain, ça sera la première mission qu'on fait en bonus. On a déjà.
Eh bah vas-y.
C'est trop tard, on peut plus éditer, on peut plus monter.
C'est fini.
Mission pour la prochaine fois. Ronan, tu voulais nous parler de ton rêve.
Ah oui, oui, la question qu'on n'a pas pu répondre en début d'interview, c'était quel est le prochain
c'est
rêve.
Pas français,
attends, bah, alors,
la... Ronan S, quel est votre prochain rêve?
Mon prochain rêve, c'est que avec ce livre, je puisse dégager un peu d'argent pour créer mon entreprise dans l'économie sociale et solidaire, pour promouvoir l'art autour du monde. Merci Eric de m'encourager.
Excellent. Donc, vous comptez faire ça sous forme d'une application, d'un site internet, peut-être
Une plateforme pour rencontrer les artistes localement, avec justement les clients qui pourraient aider tout ça en fait, créer quelque chose.
Très bien. Et ben, la
c'est
mission,
beaucoup trop d'espoir en une seule personne, Renaud.
Mais ça. L'espoir, c'est ce qui nous fait vivre, Eric.
Ah ouais, merde, avec quoi?
Une idée de mission qu'on en reste?
C'est réfléchir deux secondes et peut-être marquer quelques mots sur un papier et se dire, tiens, je sais pas si vous l'avez déjà fait ça, dans 5 ans, est-ce que je serais plus proche de mon rêve? Est-ce que je pourrais... Soit tu t'écris quelques
répondu,
mots...
Excellente idée, écrire une lettre à son soi,
soi
du
futur. Bien joué.
Oh, et si,
c'était un sujet de nouveau de okay, émission.
Okay. Alors mission, écrivez une lettre ou un mail, parce qu'on est en 2017, à votre soi du futur.
Ah,
et pour les plus
ça.
Courageux... nous l'envoyer pour qu'on vous le renvoie dans 5-10 ans si on est encore en vie. Notre
très,
adresse,
très
c'est...
Bah, c'est-à-dire que Adrie et
Lagrange,
oui, mais...
notre adresse, c'est lagrangepodcast@gmail.com.
Mais même, ne serait-ce qu'un
c'est
seul
pour
mail...
Vous, c'est pour vous, en fait.
Ne serait-ce qu'un seul mail avec vos souhaits de qu'est-ce que j'aimerais être plus tard. N'hésitez pas à nous l'envoyer pour qu'on puisse le lire et se dire bah, si ça peut inspirer d'autres personnes que nous.
Ah non, il faut que ça soit anonyme, on le
dira oui,
pas.
Oui, mais c'est ce que je dis. Alors, mais non, mais ils peuvent le faire. C'est d'envoyer une lettre, et pas forcément on dit qui nous l'a envoyé, mais juste...
D'accord.
Juste envoyer une lettre en disant, bah, plus tard, moi j'espère être ça, 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 avoir réalisé ça, ça, ça. Et si ça peut motiver des gens, si ça peut créer un enthousiasme, bah, on est pour.
Mais carrément, et je vous conseille de lire la lettre de Bruce Lee, en fait, qui s'est fait une lettre à lui-même et qui s'est dit « je veux faire ça de ma vie ». Je vous conseille d'aller voir, de chercher ça sur Google. Et puis voilà, sa lettre, il a suivi ce qu'il a écrit, il a cru en ses mots et il a été au fond des choses et je trouve ça magnifique.
Ok, on va
c'est vrai,
là-dessus.
C'est vrai.
Soyez comme Bruce Lee, soyez comme l'eau.
Just, oui,